Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'émission Regards croisés avec Arlette Farah et
Fulgence Pleur.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Un beau début de semaine, alors on va commencer fort aussi, comme d'habitude d'ailleurs dans ces émissions. Beaucoup d'intérêt, donc en première partie, on va parler du festival Accès Asie qui fête son 26e anniversaire. Et pour ce faire, on va recevoir son directeur général artistique, Khosro Behramandi, qui va être avec nous. Alors, on va parler un petit peu de tout ce qu'il va y avoir, du festival et de lui-même, puisque c'est un artiste peintre reconnu.
26e édition.
26e édition, monsieur.
Voilà. Et puis, en deuxième partie d'émission, on va recevoir Judith Rouen, qui est directrice générale du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Voilà, les détails un peu plus tard.
Oui, restez avec nous.
Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, comme d'habitude ?
Comme d'habitude, on part en musique et cette fois, c'est avec l'impératrice qui chante Hématome.
Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire, j'aurais pu compter tout. J'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, évidemment. Identique, c'est la photocopie. On ne peut compter que sur nos doigts. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atomes. Je voudrais m'en aller, mais j'ai rien à fuir.
Comme je vous le disais il y a un instant, on va parler du festival Accès Asie qui fête son 26e anniversaire et qui fait la promotion des arts, des cultures et des histoires asiatiques à travers une grande variété de disciplines dont on parle à l'instant même avec le directeur général et artistique Khosro Behramandi. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Khosro. Bonjour, Khosro.
Vous allez...
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très très bien, merci. Oui.
Bon, alors on va parler de ce festival qui est énorme, qui dure tout le mois de mai, puisque c'est le mois de mai. C'est aussi le plus ancien, j'ai lu que c'était le plus ancien festival du Canada.
Oui, tout à fait. Donc tout d'abord, je vous remercie pour m'inviter à votre émission. Le festival Axelazi, en fait, célèbre le mois du mai, qui est considéré mois du patrimoine asiatique au Canada. Donc, c'est un événement annuel chaque année durant le mois de mai. Et à part de notre festival, à travers le Canada, il y a d'autres organismes aussi qui célèbrent le mois de mai comme mois de patrimoine asiatique. Donc, c'est une activité nationale. Et au Canada, l'année 2001, le gouvernement canadien a déclaré le mois de mai comme mois de patrimoine asiatique. Et suite à ça, à Montréal, la ville de Montréal aussi, il a déclaré le mois de mai comme mois de patrimoine asiatique. Aussi, le province du Québec, donc aux trois niveaux de gouvernement, le mois de mai est considéré mois du patrimoine asiatique.
On peut dire quand même que le mois du patrimoine asiatique, ça englobe plusieurs cultures différentes.
Tout à fait, tout à fait. L'Asie, comme vous connaissez, c'est le plus grand continent sur la Terre. Donc, il y a une diversité énorme parmi les différents pays asiatiques, donc de côté culture, religion, langue. Donc, c'est vraiment très, très varié. Mais cela, ça nous permet de se réunir, de célébrer. En même temps, aussi, l'idée derrière, c'est de célébrer la contribution de toutes les communautés asiatiques qu'ils ont vécu ici au Canada, à Montréal, leur contribution à notre vie dans tous les niveaux, soit art, économie, science, politique, donc toutes les riches histoires.
La poésie, la littérature, la performance des nouveaux médias, les arts culinaires, ça va être vraiment archi complet. Et vous allez en parler, d'abord il faut dire que vous êtes là depuis les débuts pratiquement.
Presque les débuts,
et vous êtes un artiste peintre.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, mon relation avec le festival commençait dès l'année 1997. À cette époque, j'étais invité de participer dans la première exposition artisanale du festival. Et là, à ce moment donné aussi, la directrice artistique à l'époque, qui s'appelait Madame Janet Lamb, m'a demandé si je pouvais donner un coup de main pour organiser l'exposition. Donc, j'ai accepté de faire ça. J'ai fait ça avec un grand plaisir. Donc, la première exposition, c'était à la Maison de la Culture Frontenac. À l'époque, ça s'appelait Frontenac. Maintenant, ça s'appelle Jenin Soto.
Oui, oui. Et en plus, ça va être facile pour moi d'y aller. J'habite à côté. Donc, vraiment un bonheur.
Oh. Donc, dans ce cas-là, je vais vous raconter parce que pour nous, notre élément phare de notre festival cette année, c'est notre exposition en art visuel. L'exposition en art visuel qui aura lieu à la même Maison de la Culture et commence le 6 mai et continuera jusqu'à 30 mai.
On va regarder petit à petit tout ce qui se fait, mais okay, ça commence aussi sur une entrevue avec vous et puis Laura Emmanuel qui pour parler des Canadiens, des Canadiennes d'origine asiatique.
Oui, tout à fait. Donc,
allez-y.
Oui, donc cette année, pour la première fois, suite à l'expérience de ce qu'on a vécu l'année dernière, surtout durant le début de pandémie et le vague de racisme contre plusieurs différentes communautés asiatiques, Laura, elle a décidé de faire une série d'interviews. Ils sont pas tous sur les questions de racisme, mais c'est en fait plutôt sur les questions d'expérience de vie avec une dizaine des individus, soit des artistes ou d'autres gens qui vécurent leur vie ici au Canada, de points de vue différents, soit de première génération.
Soit qui sont nés ici, soit qui sont arrivés après.
Oui, exactement. Donc ça se présente comme une série de balados qui commence à partir du 1er mai sur notre site internet. Vous pouvez aller là-bas, cliquer, vous avez accès à cette série de balados. J'ai rencontré Laura aussi pour qu'elle explique un petit peu, mettre en contexte en fait cette série de discussions. Donc on va voir une vidéo aussi dans laquelle Laura va présenter cette série de balados. Donc il s'appelle Asiat imparfaite. Ça commence à partir du 1er mai jusqu'à 31 mai. Vous pouvez le trouver sur notre site internet. Voilà.
Alors, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, me fait sourire parce que j'ai joué à ça quand j'étais enfant. C'est un atelier vidéo de théâtre d'ombre à la maison. C'est à l'intention des enfants, mais j'y ai joué et j'ai joué pour mes enfants aussi.
C'est parfait, oui. Donc, le théâtre d'ombre, traditionnellement, c'est très fort dans certains pays asiatiques, surtout en Chine, en Thaïlande. C'est vraiment c'est quotidien dans nos vies quotidiennes. Donc, aussi, on voudrait offrir une activité pour les enfants, mais surtout dans cette période que beaucoup d'enfants sont obligés de rester à la maison. On avait pensé d'offrir cet atelier qui présente comment on fait un théâtre d'ombre. Donc, c'est avec d'autres jeunes artistes. Tout ça aussi, c'est enregistré. Et ça va être disponible sur notre site internet de début de mois mai, le 1er mai, jusqu'à 31 mai. Donc, c'est une atelier, je crois qu'il y a une quinzaine de minutes, donc avec le lien qui est disponible sur notre site. Les adultes aussi, parce que c'est vraiment, comme vous avez vécu cette expérience, c'est très, très intéressant et sympa. Donc, on peut faire plein de choses avec le théâtre d'ombre.
Je ne suis pas sûre que je l'aurais fait aussi bien, mais je vais regarder quand même. On va revenir ensemble. Pour l'instant, on va écouter un extrait dont écoutez-le, vous allez nous en parler tout de suite après ça et après on passe aux questions.
Okay. Parfait.
Alors là, on vient d'entendre un extrait.
Oui, tout à fait.
Vous m'en parlez un peu?
Oui, donc, en fait, ça, c'est un groupe, un ensemble de musique perse qui s'appelle Diba. On va le présenter durant la soirée d'ouverture de festival, qui est le 6 mai, le cocktail d'ouverture de festival. Donc, vous avez les renseignements sur notre site internet. On avait prévu de présenter cet concert aussi à la Maison de la Culture en SIC vers la fin du mois de mai, mais très, très récemment, on a appris que malheureusement, un des musiciens, en fait, le directeur artistique de ce groupe, il a eu un mal à l'aise avec sa main et doit faire une opération. Donc, malheureusement, le concert a été mis pour plus tard. On ne connaît pas la date exacte, mais malheureusement, on était obligé de l'annuler cette année. Mais on va présenter un morceau de leur musique lors de la soirée d'ouverture de festival, qui est le jeudi 6 mai, dans environ une dizaine de jours, en ligne. Malheureusement, cette année.
Voilà. Ce qu'on vient d'écouter s'appelait Rends-moi mon cœur.
Oh, merci.
Voilà. Alors là, Fulgence, c'est une question pour vous, et après, on partira sur le vernissage.
Ok, parfait, allez-y.
Cosro, monsieur le directeur général, l'artiste de ce festival. Alors, les artistes, j'ai vu que depuis le début, vous avez invité, des œuvres de plus de 1000 artistes. Est-ce que les artistes sont seulement locaux ou bien vous arrivez à faire venir des artistes des différentes régions de l'Asie?
Oui, tout à fait. Donc, je mets un peu lumière sur la programmation, la façon de faire de programmation de festival. Notre mandat, c'est de promouvoir les artistes d'origine asiatique qui vivent ici, mais en même temps, on voudrait donner à notre public une aperçu de plus large, d'un horizon plus large, de différents artistes aussi, qui malheureusement, certaines expressions, on n'a pas ici à Montréal, mais en même temps, il y en a des grands maîtres à l'extérieur du Canada, en Asie. Donc, on a développé un programme qui s'appelle Terre d'ailleurs, dans lequel on invite les grands artistes asiatiques qui vivent en Asie à Montréal. Ça fait depuis quelques années qu'on fait ça. Donc, chaque année, on invite les différents artistes. Et ça permet aussi, pas seulement au public, mais aux jeunes artistes montréalais ici, d'avoir cette opportunité d'offrir un échange, rencontrer ces artistes, et aussi on demande aux artistes d'offrir des ateliers sur le public, et surtout des jeunes artistes dans des bouts de carrière. Donc c'est une opportunité de faire des échanges, et donc malheureusement depuis l'année dernière à cause de pandémie, on était obligé d'annuler, mais cette année, dans le cadre de nos présentations de Wapper d'ailleurs, on présente un groupe de musique de l'Inde. En fait, on a fait l'arrangement avec OKO. Ils font faire un concert spécifiquement pour nous dans une salle vide. Ils vont le filmer, ils vont nous envoyer. Donc, on va voir le concert, mais malheureusement, les artistes seront toujours en Inde.
En vidéo, même.
Oui, malheureusement, cette année, je vous parle des présentations partout.
On les verra, ce sera déjà ça. Maintenant,
Merci.
Je voudrais vous parler de l'exposition Les Nocturnes, qui est faite par Azala Kaviani, qui est une artiste visuelle et danseuse d'origine iranienne et qui vit avec une paralysie cérébrale.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un autre élément de notre festival qui a commencé à développer dans le cadre de l'inclusion aussi, pour offrir des possibilités à des artistes qui vivent avec des difficultés physiques, donc pour être capables de présenter leur travail. Azalia, on a le rencontré il y a quelques années dans une exposition collective. Moi-même, je l'ai rencontré, j'étais très, très impressionné par son travail. Et donc, depuis, j'ai discuté avec plusieurs membres de l'équipe du festival de trouver un moyen d'inviter elle dans notre festival pour présenter son travail. Donc, parce qu'elle est aussi de beaucoup de difficultés de communication, de discussion, elle n'arrive pas à parler, donc il faut tous communication passe par écriture et via son iPad. Donc, c'était un encadrement très, très spécifique. On a eu la chance d'avoir un appui de la part du Conseil des arts de Montréal et aussi un autre organisme, Montréal Art Interculturel, pour nous aider à offrir un encadrement professionnel à elle pour développer son talent. Elle fait pas seulement la peinture, mais aussi elle adore faire la danse. Donc, aussi, on avait prévu, malheureusement, cette année, à cause de tout ce qui s'est passé, on pouvait pas permettre, elle, de pratiquer.
Il va y avoir quand même la conférence qui sera disponible sur Zoom le 23 mai là, pour parler du projet avec elle et son équipe.
Le projet, toutes les procédures aussi. On a aussi préparé un petit documentaire qu'on va montrer. Donc l'exposition aura lieu à la Maison de la Culture Janine Soto. Ça commence à partir du 6 mai jusqu'à 30 mai. Pour que sachiez, la Maison de la Culture, c'est ouvert à tout le monde, mais avec un nombre limité.
Oui.
Donc, je crois que en général, 25 personnes pour être là. Donc normalement, on va pas avoir de problème, n'importe qui pourra aller. Et s'il y en a plus de monde à l'intérieur, on attend quelques minutes que quelqu'un sorte, la deuxième personne pour entrer. Donc j'ai vraiment, c'est notre élément plus important de ce festival, parce qu'on a travaillé très fort. Elle a travaillé extrêmement fort.
Doute.
Et elle a hâte à le présenter. Donc ça va être un grand joie pour tout le monde.
Je comprends ça. Parlons un petit peu musique. Je vois que le collectif Transpacifique Express qui nous invite à un univers rétro-japonais et hip-hop coréen.
Oui, tout à fait. Donc, ça aussi,
ça va être quelque chose.
Oui, bon, encore malheureusement, ça va être en ligne. On avait prévu de faire ça au Centre Phi, une soirée dansante avec...
Mais on dansera chez nous.
Bah oui, tout à fait. On a fait ça aussi l'année dernière, on a dansé sur nos balcons. Donc,
voilà.
Mais aussi, c'est une tendance, surtout chez les jeunesses. En Asie, c'est très, très populaire. Donc, ça s'appelle, c'est dans les catégories de city pop, c'est un genre de musique qui est après influencé par les jeux électriques des années 80. Donc, et avec cette sorte d'approche de musique pop, mais influencée par jeux électriques des années 80. Mais en tout cas, c'est un soirée festive. La musique aussi, on a invité les deux DJ qu'on en présentera de parler de l'histoire et de racines de cette musique et sa vie hindoue et tout ça. Donc, il y a un côté éducatif aussi dans leur présentation. Donc, une quinzaine, vingtaine de minutes de présentation et après la fête. Donc,
de toute façon, il y a plein de choses à aller voir, mais il y en a une autre qui m'a attiré l'œil aussi, c'est la double cérémonie du thé.
Oui!
J'adore la cérémonie du thé, je l'ai déjà vue faire, mais double cérémonie du thé, c'est...
Oui, en fait, à Montréal, on a la chance d'avoir un maître de thé qui s'appelle Monsieur Han Lee. Lui aussi, il a une boutique dans laquelle il présente toutes ces différentes variations du thé. Mais lui aussi, il est capable de présenter des cérémonies, comment ça passe. Donc, je choisis de nous présenter deux façons de faire. Une façon chinoise, cérémonie chinoise de servir du thé, et aussi japonais. Donc, c'est pour ça que c'est double cérémonie du thé. Donc, il y a une version pour présentation du thé chinois et une pour japonais.
Et en plus, non seulement on va voir ça, mais on est aussi accompagné par de la musique.
Oui, tout à fait. Kayo Ushuhara, qui est une artiste invitée, on l'a invitée, c'est d'origine japonaise, de jouer la musique. Pour que vous sachiez, toute cette programmation était prévue l'année dernière durant le début de pandémie. Donc, j'ai jamais pensé que ça va être en ligne. Donc, c'est vraiment très, très récemment qu'on a décidé de le mettre en ligne. J'ai pensé que ça va terminer.
Ça peut attirer beaucoup, beaucoup plus de monde. On aura ça. On va pouvoir avoir de la danse. Enfin, il y a plein de choses, mais on n'a pas le temps de tout voir en détail. Oui. Mais on peut aller les voir donc, sur le site.
Oui, tout à fait. Donc, le site internet de Festival Accès Asie. Donc, www.accèsasie.com. Vous allez voir toutes nos programmations qui sont disponibles. Donc, toutes les façons de faire, comment on peut s'inscrire. Certains sont gratuits, certains sont payants, mais le pire, c'est vraiment très, très symbolique aussi. C'est pas très cher. On a aussi, cette année, pour première fois, une vitrine nationale des artistes qui vient d'ailleurs. Donc, c'est pas seulement Montréal, mais aussi de Vancouver.
J'ai pas le temps de faire le détail de tout, mais il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Donc, vraiment, il faut aller voir tout ce que ça propose, comme vous le disiez, là, les perles d'ailleurs. Approchez, je vous raconterai ce que j'ai oublié. Donc, maintenant, on est au bout de l'entrevue, mais un bon conseil, allez voir sur le site. Il y a mille et une propositions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, en tout
grand
cas.
Grand plaisir.
Merci beaucoup, Kosovo
Beramandi.
Merci.
Alors, bonne continuation à vous.
Merci
à la prochaine.
Pareillement pour vous. À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir. La boucle.
Alors, on vient d'entendre Catherine Dagenais qui nous chantait « Dégrisée ». Et maintenant, eh ben, rendez-vous pour la deuxième partie, n'est-ce pas, Fulgence ?
Oui, on va parler du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine avec la directrice générale de l'organisme.
Ben, c'est parfait. Alors, on va rester à l'écoute, rester avec nous. Et puis, on reçoit donc, comment elle s'appelle, tu m'as dit déjà, Judith Rouen.
Judith Rouen.
Dans un instant. Alors, à tout de suite.
Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
J'ai mis mon cœur entre tes mains, tu lui fais faire ce que tu voulais. J'ai mis mon cœur entre tes mains, tu lui fais faire ce que tu voulais. Tu devrais pas t'en servir comme ça. C'est fragile, c'est pas un jouet. Et si un jour tu veux revenir, dis-toi que je serai plus jamais le même. Et si un jour tu veux revenir, dis-toi que je serai plus jamais le même. Ça sera pas si facile qu'avant, mais je suis prêt à tout pour que tu reviennes. On m'avait pourtant prévenu, nous deux on jouait un jeu dangereux. La première fois j'ai tout perdu, la deuxième c'était pas mieux. Ah, j'ai mis mon cœur entre tes mains, tu faisais faire ce que tu voulais. Tu devrais pas t'en servir comme ça, c'est fragile, c'est pas un jouet.
Benoît Blue Boy et les Tortilleurs, Isolument Bleu. Nous avons notre invité qui est déjà au téléphone. Il s'agit bel et bien de Judith Rouen, qui est directrice générale du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Alors, je vais la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais la présenter un peu comme avant de lui passer le micro, la parole. Elle est à la tête de cet organisme depuis décembre 2018. Voilà, 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation et de la formation, bien sûr, tant aux jeunes qu'aux adultes, aussi bien en milieu formel qu'en éducation populaire. Elle a à cœur la participation citoyenne et la justice sociale en éducation. Et puis sa solide expérience en gestion d'organismes à but non lucratif et en développement de programmes en éducation, ce sont des atouts qu'elle met à la disposition de cet organisme depuis décembre 2018. Alors, on dit bien bonjour à Judith Rouen.
Bonjour Judith.
Bonjour, merci de me recevoir.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Ça va oui, bien, merci. Merci d'avoir le temps de venir nous parler un peu de cet organisme qui s'occupe de l'alphabétisation et de la condition féminine. Je pense bien que depuis décembre 2018 que vous êtes à la tête de cet organisme, vous n'êtes pas déçu d'avoir accepté ce poste.
Non, c'est un organisme, c'est super ce qu'on fait, puis c'est unique en fait. Alors je ne sais pas si je vous parle de ce qu'on fait, mais...
Oui, bien sûr.
Oui, nous on est comme une bibliothèque en fait, donc on a un centre de documentation, une bibliothèque qui est spécialisée sur les questions de féminisme, hein, parce que conditions féminines ou conditions des femmes, c'est les mots qu'on employait avant, donc nous on aime mieux parler de dire qu'on est une bibliothèque féministe, avec peut-être un S à féministe parce qu'on essaye d'embrasser plusieurs façons d'être féministe. On travaille aussi beaucoup avec les groupes en alphabétisation, donc pour fournir du matériel, de la documentation aux groupes qui travaillent sur les questions avec leurs membres sur l'alphabétisation. Puis on travaille en éducation des adultes aussi avec les milieux qui sont peut-être un peu plus formels. Oui. Alors notre mission, c'est de rendre accessible en fait les savoirs dans ces domaines-là. Et puis de rendre accessible les savoirs, puis de faire en sorte que les gens qui travaillent dans ces domaines-là, dans les organismes, soient mieux outillés pour pouvoir mieux réaliser leur mission. Et puis finalement que tous ensemble, on arrive à transformer la société vers plus de justice sociale. Voilà en gros ce qu'on fait.
En gros, c'est ce que vous faites. Vous démocratisez les savoirs dans une perspective de transformation sociale.
Oui, c'est-à-dire que nous, on croit que l'éducation, c'est absolument fondamental pour arriver à vivre à égalité, tout le monde dans la société, parce que quand on est éduqué, on a la capacité de pouvoir faire nos propres choix et de prendre nos propres décisions par rapport à notre vie. Donc, en fait, comment on fait ça, finalement? On est un centre qui produit de la veille. Donc, virtuellement, on veille plein de sources d'informations. Et puis, avec cette veille-là, on envoie des bulletins donc à nos publics pour qu'eux soient capables d'avoir accès à de l'information, à des savoirs qui vont les aider à réaliser leur mission. On forme aussi des groupes. On les accompagne sur sur toutes les questions, parce qu'on s'est développé il y a longtemps sur le numérique, parce que en fait le numérique, la technologie, c'est aussi, ça pourrait être, disons, parce que ça l'est pas, mais on avait l'espoir que ça permette l'égalité dans l'accès au savoir, puisque les savoirs sont dématérialisés, qu'il y ait cette notion de gratuité.
Oui.
Mais en réalité, on se rend bien compte que l'accès au numérique, c'est aussi un facteur d'exclusion. Donc nous, on essaye d'outiller les groupes pour qu'ils soient capables d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir déployer leur potentiel auprès de leurs membres, pour qu'ils soient capables aussi, par exemple, en alphabétisation. C'est vraiment une question super importante, la littératie numérique. On en a beaucoup parlé avec la Covid. Beaucoup de services de notre société sont dématérialisés, hein, juste pour avoir droit à des prestations sociales. Donc, en fait, comment les gens peuvent y avoir accès s'ils ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la littératie numérique, ça veut dire les compétences numériques. Donc, nous, on travaille avec les formateurs et les formatrices pour qu'ils et elles soient capables d'apprendre à leurs membres comment utiliser le numérique. Oui. Il y a toute la question de l'accessibilité aussi universelle, parce qu'il faut pouvoir, il faut que ce qu'on produit en ligne soit accessible à des personnes qui sont en situation de handicap. Donc en fait, nous on réfléchit à ces questions-là. Et puis ça fait partie de la démocratisation des savoirs aussi.
Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que le centre, c'est un carrefour d'échange et un espace d'expression qui a pour fonction de collecter, de diffuser, de promouvoir et de rendre accessible à tout, oui, le français,
oui,
le français.
Oui. Mais, disons que c'est ça qu'on veut. Après, c'est vaste, là. Mais oui, c'est ça qu'on veut faire. Puis, on est aussi un espace, un lieu quand on vient, on a donc une bibliothèque physique, là, on a à peu près 15 000 documents. Mais on collecte aussi les productions du milieu documentaire, parce que quand on parle de savoir, souvent, dans nos têtes, on se dit « Ah, le savoir, c'est ce qui est produit par l'académique, en fait, c'est le savoir académique, universitaire ». Alors que, et ça c'est un enjeu aussi d'égalité, alors oui. Qu'en fait les groupes communautaires produisent du savoir qui est tiré de leur pratique, les militants produisent aussi du savoir qui est tiré de leur pratique, et puis avoir accès, permettre l'accès à ces savoirs-là, c'est hyper important parce que ça permet de penser le monde autrement aussi, mais valoriser ces savoirs-là aussi, c'est dire attention, il y a plein de gens qui produisent plein d'affaires, et donc ça permet aussi de désacraliser l'institution, l'académique, pour pouvoir valoriser le travail qui est plus un travail de l'ombre, mais qui finalement fait avancer beaucoup, beaucoup la société, parce que nos droits, on les a parce que c'est le produit de lutte, puis ces luttes, c'est très inspirant d'aller comprendre comment tel droit est arrivé, en fait, on en a besoin aussi.
Oui, oui, oui. Et avant de... Je pense bien qu'on va faire une petite pause musicale, si je ne me trompe pas, mais avant d'y aller, je vais placer une petite question avant de... Vous allez préparer la réponse avant qu'on ne revienne. Bon, ce que je vois là, je suis allé me promener un peu sur votre site, et puis avant de toucher aux mini... Ça, j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu ça sur votre site, les mini-bibliothèques. Ça m'a fait sourire d'abord. Je me suis dit, elle va nous en parler, c'est quoi les mini-bibliothèques? Mais néanmoins, la formation, l'alphabétisation des adultes, ça, vous avez de l'expérience en ça. Et puis, ça, c'est un de nos, d'ailleurs, sujets de prédilection à l'émission Regards croisés. Mm-hmm. Ça nous tient à cœur. Oui, bien maîtriser la langue française, l'alphabétisation. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont analphabètes au Québec. Ça, c'est mm-hmm. très important. Et beaucoup de femmes qui sont touchées dans ce milieu, d'ailleurs. Alors, comment est-ce que vous faites votre approche vis-à-vis de ces personnes qui viennent vous rencontrer? Préparez la réponse. On va écouter de la musique et puis on revient.
Voilà. À tantôt.
Oui.
Je me descends une vue. Tu marches avec tes docks. Je fais du vélo dans la rue.
Quand tu rentres au bar, moi c'est sûr que je sors. Toi tu bois de la langue, puis moi je gueule du fort.
Mais quand on se retrouve en dessous du pont, les deux fils se touchent, puis on grimpe au plafond. Y'a quelque chose qui se passe, pas sûr que ça a un nom. Toutes les fois qu'on va se perdre en dessous du pont.
Tu penses que je t'aime, j'y donne.
Tu me prends pour un fendant.
Tu sauras que j'ai un gars.
Moi j'aime prendre mon temps.
Tu m'auras pas à soi.
Oublie ça les romans, j'aime même pas tes yeux noirs.
Moi j'aime juste les sanglants.
Éric Goulet et Sarah Dufour, En dessous du pont. On a toujours notre invité avec nous, la directrice générale du Centre de documentation. Voilà, ouais, et Judith, je lui ai posé une question avant la pièce musicale. Je crois bien qu'elle a trouvé la réponse. Judith, on vous écoute.
Alors, votre question, c'est un peu comment on travaille sur ces questions-là d'éducation des adultes puis d'alphabétisation. Mmh. Nous, on ne travaille pas directement avec des personnes faiblement alphabétisées. Nous, on est vraiment l'inter... Enfin, on travaille avec les gens, avec les formateurs et les formatrices des groupes en alpha. Ouais. Alors, mais c'est important parce qu'en fait, on est comme leur source à laquelle elles viennent s'abreuver, là. Donc, par exemple, vous parliez des mini-bibliothèques tantôt. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a des ressources documentaires pour que les groupes d'alpha puissent travailler avec leurs membres. Donc, on a, par exemple, on a des mini-bibliothèques, on en a une quarantaine. Donc, c'est des boîtes, hein, bleues, là, des grosses boîtes bleues, dans lesquelles on a une vingtaine ou une trentaine de romans ou de livres documentaires. C'est prêté tous les ans aux groupes d'alpha qui en font la demande. Puis eux, ils les partagent avec leurs membres. Alors, c'est prêté pour des durées variables, mais disons 3-4 mois, puis ensuite, ils nous les renvoient. Donc, c'est vraiment un tarif, c'est absolument pas cher à partir du moment où on est membre du CEDAF. Et ce qu'on faisait aussi, ça, c'était intéressant, la COVID a un peu mis un frein à ça, mais avec tous les ans, on avait une activité avec un groupe en alpha de rafraîchissement des mini-bibliothèques, c'est-à-dire que on s'en allait avec les membres, les intervenants en alpha, leurs apprenants-apprenantes, puis on allait renouveler un peu les livres de cette mini-bibliothèque, puis on faisait la fête autour de cette nouvelle mini-bibliothèque. Oui. Alors ça, c'était des activités qui étaient vraiment, qui sont vraiment super appréciées. Puis là, par exemple, cette année, on va faire avec deux groupes en alpha, on va renouveler complètement deux mini-bibliothèques, mais avec un angle, on a une approche. Donc on va aller travailler avec la librairie Racine et la librairie Le Guélion, et on va sélectionner avec ces librairies-là et avec les apprenants et les apprenantes que des livres pour contrer les stéréotypes racistes, sexistes, homophobes. Donc on va travailler ça, et ensuite on va pouvoir prêter ces mini-bibliothèques, mais on va dire qu'elles ont été créées avec la grande collaboration des groupes en alpha. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a des trousses aussi, qu'on appelle des trousses didactiques, c'est-à-dire que là, c'est par thème, je sais pas, moi, le français, les maths, et là, nous, on fait une sélection de livres, en fait, de livres d'études, d'une certaine manière, pour que les formateurs et les formatrices puissent construire leurs ateliers, puissent construire leurs cours, puissent penser comment ils veulent faire les choses. Donc ça, c'est par exemple, c'est nos trucs un peu phares avec les groupes d'alphabétisation.
D'accord. Et Judith, je peux vous poser une question? Est-ce que nous, en tant qu'individus, par exemple, en sachant ce que vous faites, si on veut offrir des livres qui pourraient aider, est-ce que c'est possible?
De les offrir au CEDAF?
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr que ça, c'est possible. Après, comme n'importe quelle bibliothèque, on a une politique de développement de nos collections. Donc, par exemple, nous, on n'a pas de fiction, à part nos mini-bibliothèques.
D'accord.
Donc, où on a des critères. Par exemple, si vous voulez offrir des livres, il faut qu'ils ne véhiculent pas de propos sexistes, racistes, des affaires comme ça, là. Mais oui, bien sûr que c'est possible. Oui. Ça, c'est à discuter avec la bibliothécaire, mais on peut être membre du CEDAF comme individu, on peut être utilisateur du CEDAF comme individu. Nous, ce qu'on cherche à faire là, justement, c'est par exemple de développer un comité éditorial, donc avoir avec nous des membres qui vont penser, ok, cette année, on travaille sur quoi? On produit des ressources, on va diffuser quel savoir? C'est quoi notre angle cette année qui va aider les groupes, en fait?
Je comprends.
Ok.
Merci.
Judith, est-ce qu'il faut forcément une femme avant pour pouvoir être membre, ou bien c'est ouvert à tout le monde, c'est inclusif?
Non, c'est ouvert à tout le monde. Non, n'importe qui peut être membre du CEDAF, en fait.
Qu'on soit une femme ou bien un homme, d'accord.
Oui.
Ok, voilà, et si on revient aux mini-bibliothèques que j'adore beaucoup d'ailleurs, pourquoi cette période-là, pour la période de prêt, j'ai vu qu'elles sont prêtées du 19 octobre 2020 au 30 juin 2021?
Oui, mais en fait, c'est le temps que nous, on récupère toutes les mini-bibliothèques parce qu'elles sont prêtées essentiellement aux groupes en alpha. On voudrait que les centres de femmes les utilisent. Oui. Et pour l'instant, c'est les groupes en alpha. Donc, c'est un peu mis sur le rythme des groupes en alpha. Oui. Mais on peut s'arranger. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre question, mais ce n'est pas figé. On peut tout à fait appeler au CEDAF en disant, par exemple, nous, on a construit une mini-bibliothèque spécifique pour, je pense que c'était un centre d'éducation des adultes qui voulait vraiment des livres pour les lecteurs les moins avancés.
Oui.
Donc, on l'a fabriqué pour pouvoir dépanner, là. Donc, on peut faire aussi des choses. Il suffit d'appeler. En fait, pour bénéficier de nos services, là, il faut être membre, ça coûte $25, puis après, on s'appelle et on dit ben, « j'ai besoin de ça », puis nous, on voit comment on peut vous fournir les ressources dont vous avez besoin.
Oui. Et quel est l'apport vraiment important? Qu'est-ce que apporte cet organisme vraiment à la condition féminine? Parce qu'il faut qu'on mette l'accent. On a assez parlé d'alphabétisation. Oui.
Je pense que là, je vais vous donner un exemple hyper concret. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille sur les questions de technologies connectées, donc les cellulaires, les jouets, vous savez, les nouveaux jouets là qui sont connectés, tout ça, et le contexte de violence conjugale. Donc, oui. En fait, on se rend compte que avec ces appareils-là, il y a beaucoup de contrôle qui se fait sur les femmes et qui augmente la violence conjugale, en fait, par l'intermédiaire de la domotique. Bon, enfin, je ne vais pas en citer une tonne parce que je ne voudrais pas donner d'idées, là. Mais oui. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les intervenantes des maisons d'hébergement, des groupes de femmes, pour les former, justement, et les sensibiliser à ces questions-là, et pour que quand une femme arrive en maison d'hébergement, l'intervenante soit capable de lui dire « Attention, voilà, il faut que tu prennes telle et telle précaution pour pas être localisée, géolocalisée, pour pas être harcelée. »
Ouais, génial.
Oui, il y a ça aussi.
Oui.
Vite fait, j'ai regardé dans les trousses que vous avez. Vous avez aussi des trousses pour les jeunes filles, pour leur expliquer ou pour les aider à travers la sexualité.
Oui.
Ça, c'est très bien aussi.
Oui. Mais oui, parce que c'est ça, on travaille dans une perspective féministe, donc l'éducation à la sexualité, c'est hyper important.
Ben oui.
Et nous, on a ce qu'on appelle des membres déposants, c'est-à-dire qu'eux, on achète des livres exprès pour eux, et la Fédération du Québec pour le planning des naissances est membre du CEDAF. Donc nous, on achète des livres pour la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Donc ça fait qu'on a beaucoup d'ouvrages sur ces questions-là, oui.
Merci beaucoup.
Il y a tellement. Oui, elle est. Heureusement qu'on est tombé sur une personne qui aime son métier et qui nous a tellement donné d'informations. On va dire, ça se sent. On espère qu'on aura l'occasion de vous revoir quand vous aurez un autre projet qui va se dessiner à l'horizon pour parler plus de. Aller en profondeur. C'est CEDAF, c'est CEDAF.ca, c'est bien ça. Hein.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Pour le site web. Allez-y là-bas, vous allez avoir toutes les informations. CEDAF, c'est CEDAF. C'est bien ça, .ca.
Oui.
Merci beaucoup, Judith.
Merci à vous.
Et au plaisir de vous réentendre pour d'autres projets que vous allez mettre en place là-bas au sein de l'organisme.
Au revoir.
Merci.
Oui, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Que t'ai-je fait pour me traiter ainsi? Je ne te vois plus du tout ici. Prends donc pitié d'un amour transi. Prends-moi pour mes sentiments. Prends-moi pour mes sentiments, car comme vous, on n'est pas comme le mien. Prends donc pitié. Thank you.
C'était Rosier Insensible. Voilà.
Une très jolie chanson.
Très belle chanson douce, belle voix.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Donc, belle mélodie.
À la fin de cette émission.
Déjà, ça va tellement vite.
Eh bien oui, ça va tellement vite. Je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais le festival Accès Asie a lieu du 6 au 29 mai. Donc, oui. Ça vous laisse le temps d'aller voir sur le site.
Oui, c'est mieux de le répéter.
C'est mieux de le répéter au cas où je vous l'ai déjà dit. Donc, du 6 au 29 mai, vous pouvez y aller.
Oui.
Et voilà.
Merci à Judith Rouen, qui est directrice générale du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. C'est situé au 469 rue Jean Talon Ouest. Bureau 229, n'hésitez pas. Allez-y sur le site, c'est DAF. Ouais.
C'est bien parce que j'ai vu qu'elle faisait plein de choses pour les femmes. C'est bien. La peur s'en va à partir du moment où on apprend, où on a la connaissance de. Alors, s'il y a des gens qui sont là pour ça, bah, bravo. Bravo pour ce qu'ils font.
Oui, très beau travail. Très grand et beau travail.
C'est un beau travail. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'à aujourd'hui. Merci Maurice Bolduc pour les chansons.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le complice à la console. Merci à toi. Et puis toi, on se voit demain.
Oui, bien sûr, avec grand plaisir.
Avec du soleil en plus. Encore du soleil demain, pourquoi pas.
On le souhaite.
Voilà. Allez,
à demain.
Bye. À demain. Bye.